En ligne avec nous maintenant dans cette édition spéciale, Jean Serra, pilote de ligne, commandant de bord sur 747. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Jean Serra, je voudrais qu'on revienne avec vous sur cette hypothèse dont on a déjà beaucoup parlé dans le journal, mais qui apparaît ce soir comme la plus vraisemblable, celle de l'avion foudroyé par un éclair. Et est-ce que vous avez déjà vécu ça ?
Moi, à titre personnel, non, je ne l'ai pas eu, mais c'est arrivé déjà quand même un bon nombre de fois. Le seul problème, c'est foudroyé, oui, mais quels sont les résultats derrière ? Si c'est la perte de toute la génération électrique, c'est-à-dire tout ce qui produit de l'électricité dans un avion, vous comprenez bien que c'est pas la même chose que, on va dire, un petit trou dans une partie de la carlingue. Voilà. Donc
normalement, les appareils sont équipés pour absorber la foudre, pour ne pas en souffrir.
Non, l'appareil, le fuselage, il est construit, ce que l'on appelle une cage de Faraday, qui va donc protéger tout ce qui est à l'intérieur. Entre autres, vous, assis sur votre siège, vous n'allez pas être électrocuté. Mais la foudre, elle, peut taper sur l'avion et, par exemple, sur les bords d'attaque, c'est-à-dire l'avant de l'aile, nous avons, à cet endroit-là, nous avons des antennes de radio qui peuvent être touchées par la foudre, qui peut donc on peut perdre la radio ou perdre la réception ou l'émission. On peut également avoir des pertes de génération électrique dans les moteurs. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Tout dépend de l'intensité de la décharge aussi.
Alors, admettons que cet éclair, que la foudre ait détruit complètement le système électrique. À partir de là, que peut faire un commandant de bord ?
Si vous voulez, on a plusieurs générations. Il y a la génération principale, secondaire, il y a ensuite ce qu'on appelle l'emerge, c'est-à-dire l'emergency. Dès qu'on a perdu toute la génération électrique, ce qui produit de l'électricité, on peut récupérer au moins pour une quinzaine, une vingtaine de minutes de l'énergie électrique sur les batteries, voire sur ce type d'avion. On a ce qu'on appelle des rames, c'est un petit moteur qui sort de dessous de l'aile avec une petite hélice, et avec le vent relatif, cette hélice tourne, il y a une petite gênée qui est derrière, qui vous apporte le minimum dont vous avez besoin, le minimum vital pour pouvoir produire de l'électricité.
Alors, les dernières nouvelles que l'on a eues, c'est donc vers 4h15, heure française, plusieurs envois d'alerte automatique, c'est-à-dire que c'est l'appareil lui-même qui donne l'alerte, ce n'est pas l'équipage ?
Non, les envois automatiques dont vous parlez, ce sont les avions de nouvelle génération. Dans ces avions type 330, 340, 777, il y a envoyé complètement de manière indépendante des pilotes. Il y a des paramètres moteurs, plusieurs paramètres qui sont envoyés toutes les 10 minutes, 15 minutes, ou toutes les demi-heures ou toutes les heures, via satellite, à un PC de surveillance de chaque compagnie aérienne. Il y a dedans la température de l'huile, la vitesse de rotation du fan, la pressurisation de la cabine, la capacité électrique de l'avion. Donc les messages qui ont été reçus, il y en a eu plusieurs qui ont été reçus par Air France, ont bien sûr alerté Air France sur des problèmes électriques. Bon, on parle même à un moment donné d'un vario excessif, c'est en descente, c'est-à-dire une vitesse de descente excessive.
Ça veut dire que l'avion était en train de perdre de la vitesse et que ça...
Il est en train de perdre de l'altitude
et Air France l'a pris encore une fois par des systèmes automatiques.
Par des systèmes automatiques, tout à fait, qui n'existent pas sur 747-100, par exemple, les premières générations de 747.
Mais qui existait sur cet Airbus. Mais pour ça, il faut qu'il y ait encore un minimum d'électricité à bord, j'imagine, pour que ces systèmes automatiques fonctionnent.
Oui, mais comme je vous le dis, il y a de manière redondante, il y a des batteries de secours qui permettent pendant quelques instants de conserver le minimum d'électricité pour des choses vitales. Visiblement, la partie envoi par radio satellite était sur un système d'urgence et a pu donc envoyer son message de manière très brève avant qu'il y ait le silence total complet. Quoi. Voilà.
Alors, il n'y a pas eu d'appel à l'aide, d'appel d'urgence de l'équipage, ça on peut l'expliquer comment ?
C'est ce qui est étonnant. C'est ça qui est le plus étonnant. Oui, pour moi, c'est ce qui est le plus étonnant. Bon, en sachant toutefois que dans la zone Atlantique Nord, c'est-à-dire New York, Paris, il y a un trafic tellement intense, vous appelez avec des gammes VHF, des gammes très courtes, et vous avez d'un seul coup 150, 60 avions qui vont vous entendre. Là, c'est une zone où il y a beaucoup moins d'avions. Donc, est-ce qu'il y avait personne autour d'eux, si bien que leur message n'a pas pu passer ? C'est possible aussi.
Ou alors, l'autre hypothèse, c'est que tout soit allé trop vite ?
Bah, vous savez, c'est une rupture électrique. Est-ce que c'est la rupture électrique qui a emmené la perte de l'avion, ou est-ce que c'est un incident très grave qui a emmené la perte de l'avion avec, entre autres, la perte de la génération électrique ? Toute la question est là. Et là, malheureusement, vu où l'avion est tombé, ça m'étonnerait qu'on puisse récupérer les boîtes noires et tout ça.
Un amerrissage, ça vous paraît possible ?
De nuit, vous savez, Ce qui s'est passé sur l'Hudson est absolument merveilleux, tellement miraculeux, en plus grâce
à
un
New York,
pilote,
ouais, ouais.
À New York, pardon, mmh. sur l'Hudson, mmh. oui, grâce à un pilote qui avait une expérience monumentale, qui a eu d'un sang-froid extraordinaire, dans des conditions, il n'y a pas de vagues sur l'Hudson, au milieu de l'Atlantique, de nuit, se poser sur l'eau, je suis très, très, bon.
Ouais, Louis Baudin estime qu'il y avait des creux de 3 mètres environ. Poser un avion dans une mer formée avec des creux de 3 mètres, ça ne vous paraît exclu?
On est entraîné à faire cela. Le problème, c'est qu'il faut voir le sens des vagues. De nuit, vous ne voyez pas le sens des vagues. Je ne vois pas comment vous pouvez vous poser parallèle aux lignes de crête et tout ce qui s'ensuit. Ça paraît, c'est la voltige sans filet. Là.
Donc le plus vraisemblable, c'est sans doute un éclair. Et vous pensez derrière une série d'autres incidents, une série de malchances. Un éclair seul ne peut pas avoir détruit l'avion, à votre avis?
Bah, moi, je trouve qu'un éclair seul qui fasse perdre la génération électrique et le temps que l'avion plane et descende, il faut au moins 20 à 30 minutes avant qu'il arrive au sol. En 20-30 minutes de ne pas avoir récupéré ne serait-ce qu'une batterie, ça me paraît beaucoup.
Il reste des mystères pour vous ce soir encore?
Oui. Oui.
Et des questions auxquelles on essaiera de répondre. Merci beaucoup, Jean Serra, pilote de ligne, d'avoir été sur RTL ce soir. Merci.